RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h05, c'est l'Intégral Tour, on est ensemble jusqu'à 21h. Lucho et Bourgui sont là, rebonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Salut Virginie.
Alors on va parler de cette 19e étape de la victoire de Nibali, bien sûr. On parle de la victoire de Nibali, on parle aussi de ce qui s'est passé entre Froome et Nibali. Froome qui reproche à Nibali d'avoir attaqué alors que lui avait un petit problème mécanique. Vous trouvez que c'est normal qu'il proteste ou que c'est un peu du cinéma ?
Qu'il proteste, c'est un peu normal, mais bon, ça fait partie de la course, voilà, c'est tout. Et puis, il n'a pas été inquiété pour son maillot.
Ça fait partie des circonstances de course. Donc, Nibali n'était pas non plus un danger pour Christopher Froome au classement général. Donc, il n'y a pas de polémique à mettre sur le fait que Christopher Froome ait critiqué Nibali. C'est pas grave.
Ouais, peut-être
sur l'énervement un petit peu.
En fait, j'imagine que si ça avait été le contraire, si Chris Froome avait attaqué comme ça.
Je pense qu'on
en aurait beaucoup plus parlé et on aurait beaucoup plus attaqué Chris Froome sur son côté antisportif, non ?
Je sens ton côté anglo-saxon.
Non, mais parce qu'on voit ce qui se passe avec Chris Froome, on l'a encore vu aujourd'hui. Bon, visiblement,
normal qu'il gueule un peu, mais bon, il s'est pas arrêté, il a pas eu un bris de chaîne, il a pas eu un bris de matériel, il s'est trompé un peu dans les vitesses, il s'est arrêté, il a débloqué, puis il est reparti. Ça n'a pas duré non plus très longtemps. Après, c'est vrai que ça lui a fait faire un effort supplémentaire pour revenir surtout sur Quintana et les prétendants au podium, on va dire. Et après, il a laissé faire. Hein.
Bon, après, de toute façon, on peut surtout remercier Nibali qui a animé un peu cette étape. Sans lui, ça aurait été un petit peu tristounet quand même.
Oui, moi j'ai trouvé le début d'étape très bien. Après, c'est vrai qu'on attendait que Quintana attaque au pied du dernier. Il a attendu les cinq derniers kilomètres. Mais moi, ce que je regrette pour Quintana, c'est qu'il aurait pu gagner l'étape. Quand on voit comment il est revenu sur Nibali, c'est vrai que Cyril disait que le peloton Contador et Valverde, du moins le groupe Contador et Valverde, ne montait pas plus vite que Nibali qui était échappé depuis très longtemps.
Mais il aurait pu gagner l'étape, mais encore aurait-il fallu qu'il attaque un peu plus tôt, quoi, parce que là, enfin, comment on peut gagner l'étape à 5 km de la fin?
Il a peut-être des regrets ce soir, Quintana, parce que c'est vrai qu'il aurait attaqué un petit peu plus tôt, sachant qu'il a quand même mis 29 secondes, c'est pas rien quand même à Christopher Froome. Peut-être en attaquant 9-10 km avant, il aurait peut-être pu mettre le double, voire un peu plus, et réduire davantage le classement, le temps qui le sépare de Christopher Froome. Et là, peut-être demain, on aurait pu assister à un plus gros suspense. Donc voilà, maintenant ça va être difficile quand même de récupérer 2 minutes 30 sur Christopher Froome demain. C'est une montée l'Alpe d'Huez qui est quand même relativement difficile. Après, si Christopher Froome est dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'était pas très très bien. On peut toujours espérer. On verra
oui,
bien.
Oui, mais moi je comprends pas en fait sa tactique, parce que au départ on se disait peut-être qu'il a pas les jambes pour attaquer. Bon, en fait visiblement il les avait, donc autant prendre sa chance plutôt, parce que de toute façon là, bon, à part faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire que oui, c'est bien joli, mais 30 secondes ça sert pas à grand chose.
C'est mieux que rien.
Oui, c'est mieux que rien, mais enfin tant qu'à faire, on est à 3 jours de l'arrivée. S'il était parti beaucoup plus tôt, il aurait peut-être pu creuser un peu plus l'écart et que demain on ait une vraie lutte.
Ben oui, mais bon, il l'a pas fait et je pense qu'il se sentait pas si fort que ça, c'est tout. Il est bien revenu au début. Il est bien parti. Après, c'est vrai qu'il a tenu en respect le maillot jaune, Froome. Donc, est-ce que sur une plus longue, un plus long démarrage, est-ce qu'il il se serait pas écrasé sur la fin et ça aurait servi à pas grand chose non plus?
On va voir ça avec Bertrand qui nous appelle au 32-16. Bonsoir, Bertrand.
Bonjour, excusez-moi.
Bonsoir.
Voilà, je vous appelle ce soir parce que je suis un peu frustré finalement depuis quelques années de ces dernières semaines qu'on nous annonce passionnantes en montagne, mais qui sont un peu gâchées par les positions du top 10. J'en veux pour preuve hier avec la Trek pour Mollema qui protège une 8e place. Aujourd'hui, c'est Jessing et toute l'équipe qui roule pour une 9e place ou une 10e place. À votre époque, comment ça se passait? Et est-ce que ce genre, est-ce que les gratifications financières sont si importantes que ça qu'on veuille absolument protéger une 6, 7, 8, 9 ou 10e place? Aujourd'hui, Roland, il est 10e. Bah, et je pense qu'il s'en bat un peu, hein, ce que, vous voyez ce que je veux dire, parce que lui, c'était l'étape. Aujourd'hui, c'était au panache. Bon, aujourd'hui, on a bien vu que quand Nibali sortait, bon, et là, il a réussi à sortir, bon, c'était Valverde qui sautait dessus. Et comme aujourd'hui, Nibali est revenu à quelques secondes de Contador, donc Contador va protéger sa quatrième place. Bah, ce sont enfin, pour moi, ça gâche un peu la fin du tour. Parce qu'il y a toujours quelqu'un à rouler pour quelque chose et finalement, ça fait toujours l'affaire du maillot jaune.
C'est évident.
Ça a toujours été. Il y a un classement, il y a deux courses dans la course. Il y a même plusieurs courses puisqu'il y a, il y a la course pour le maillot grimpeur, il y a la course pour le maillot jaune et puis il y a la course. Et vous l'avez dit, hein, ça fait quelques années que ça se passe comme ça. C'était peut-être un peu moins flagrant il y a quelques années, je sais pas, j'ai pas souvenir que les coureurs roulent comme ça les uns sur les autres pour défendre une place au général dans les 10 premiers. Mais forcément, il y avait cette envie de garder sa place la dernière semaine. On est à deux jours de l'arrivée. Les coureurs ont pas envie de perdre une place sur une étape comme ça.
Est-ce que financièrement, les primes sont pas trop importantes? Est-ce qu'il faudrait pas revoir?
C'est même pas du tout important, voilà. Du tout. Parce que par rapport à un match financière. De tennis à Roland Garros et tout ça, je peux vous dire que même le premier du classement général du Tour de France, il en est très très loin. Et c'est trois semaines très intensives, tous les jours sur le vélo, des étapes incroyables, les prises de risques. Je peux vous dire que financièrement, c'est pas là où les coureurs vont gagner leur vie, hein, je peux vous le dire.
Non, mais c'est pas ça, c'est simplement pour l'équipe. Pour l'équipe, c'est prestigieux, c'est pour les partenaires. Financièrement, oui, parce que mieux vous êtes placé, mieux vous êtes à même de discuter votre contrat après, mais c'est pas ce que gagne
j'ai quelques chiffres là,
le premier du classement général
gagne 450 000 euros sur le Tour de France, le deuxième on tombe à 200 000 et pour le dixième 3 800 euros.
C'est pour dire que c'est pas pour ça qu'on va.
Dans le tennis, à Roland Garros, le premier tour, ils font combien déjà?
Au premier tour, c'est quelque chose comme 40 000 euros.
Voilà. Et le prix du classement général de la montagne, le premier, c'est 25 000 euros.
Mais toi, Lucio, à l'époque, oui. T'aurais fait rouler ton équipe comme des dératés comme ça pour protéger ta 9 ou 10e place. Enfin, c'est un objectif en soi de se dire à ses petits-enfants, un jour, papa, il a le deuxième du Tour de France.
Non. À l'époque, je te rassure, l'équipe roulait pas pour la 8e, 9e place. Hein. Voilà. On roulait plus pour une gagne d'étape qu'autre chose. Hein.
C'est Lucio.
Individuellement, on protégeait notre place et tout, mais on mettait pas contribution à l'équipe pour protéger une place d'honneur et qui s'en rappellera après, personne.
Merci beaucoup Bertrand d'avoir appelé le 32-16.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h31, on est ensemble jusqu'à 21h. Lassana Diarra à Marseille, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid ou de Chelsea, dont on n'avait plus trop de nouvelles, faut bien le dire, après son aventure russe. Paris gagnant ou Paris foireux? Vous venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. Mohamed Bouefsi est en studio. Salut Mohamed.
Salut Virginie, bonsoir à tous.
Alors donc ça y est, Lassana Diarra a signé à Marseille, là ça y est c'est officiel.
C'est officiel, il a signé, il avait passé la visite médicale en fin de matinée du côté de Marseille. Il s'est engagé pour 4 saisons avec l'Olympique de Marseille. L'OM a officialisé l'information sur son site internet. Et il y a eu une deuxième information juste après, quelques minutes après, un accord de principe entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid pour Javier Manquillo, le latéral droit.
Alors on va parler des deux joueurs, mais d'abord Lassana Diarra, il était libre ou il n'était pas libre? Parce que c'était un peu bizarre sa situation après qu'il ait quitté le Lokomotiv Moscou.
Il y a eu un litige entre le Lokomotiv Moscou et l'Inter. L'Inter voulait recruter le joueur et cependant le joueur était toujours sous contrat avec le Lokomotiv Moscou. Là, l'Olympique de Marseille a eu l'assurance juridique, on va dire, qu'il pouvait s'engager avec l'Olympique de Marseille. Et il faut savoir aussi que depuis 11 mois, il s'entraînait avec un préparateur physique aux États-Unis et il a effectué aussi une partie de sa préparation avec West Ham et l'Inter Milan pour être au top physiquement. Et si Marseille engage Lassana Diarra, c'est que Marcelo Bielsa, le staff technique de l'OM et les dirigeants de l'OM ont eu l'assurance que Lassana Diarra est au top physiquement.
Alors, on va raconter un peu les coulisses de cette signature. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Marcelo Bielsa qui voulait Lassana Diarra? Est-ce que c'est Vincent Labrune? Comment ça s'est passé, Mohamed?
Alors, il faut savoir que l'OM discute avec Lassana Diarra depuis plus de 2 mois. Et donc, c'est un joueur qui était courtisé par l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que le secteur du milieu de terrain à l'OM, il n'y a plus personne. Yannely Mboula est parti à Porto. Il ne reste plus que Alexis Romao et Mario Lemina en tant que milieu récupérateur ou relayeur, on va dire. Et il n'y a plus qu'un seul récupérateur, c'est Romao. Il fallait obligatoirement à l'Olympique de Marseille un autre milieu récupérateur, surtout quand on sait que Marcelo Bielsa a besoin dans son système de jeu de 2 récupérateurs. Alors l'OM a entrepris des contacts avec Lassana Diarra il y a 2 mois. Et à ce moment-là, Lassana Diarra avait plusieurs clubs qui était déjà intéressé par le joueur. Il était courtisé par des clubs anglais et aussi ces derniers jours par Fenerbahçe qui lui proposait plus de 5 millions d'euros.
À Fenerbahçe, ils font un gros recrutement, hein, là,
bling bling, là, hein. Oui, Van Persie, Nani, c'est assez incroyable. Il y a aussi Moussa Sow, l'ancien Lillois. Pourquoi? Parce que, petite parenthèse, en Turquie, désormais, on a le droit d'aligner plus de 8 étrangers sur la pelouse. Et donc, c'est pour ça que tous les Turcs, les clubs turcs se mettent à recruter des grandes stars. Et donc, il avait le choix, il y a quelques jours, entre l'Olympique de Marseille et Fenerbahçe. Il a fait le choix de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce qu'il veut se relancer dans un club européen qui est exposé, on va dire, et dans un petit coin de sa tête, il y a le championnat d'Europe.
Ah, il y a l'Euro, c'est vrai. Et ça fait depuis 2010 hein, qu'il n'a pas été en équipe de France, Lassana Diarra. Alors, c'est un nom, c'est un palmarès, Lassana Diarra. Il a joué dans des grands clubs, très grands clubs, même évidemment le Real Madrid, Chelsea, Arsenal. Donc ça, pour Marseille, c'est bien d'avoir un nom. Est-ce qu'on l'a pris pour ça, pour le nom ou pour ses performances?
Non, on l'a pris pour ses performances. Alors tu parlais des coulisses il y a quelques secondes. Alors il faut savoir que Marcelo Bielsa, il aime bien voir, tu sais, 50, 60, 70 matchs d'un joueur pour on va dire avant de le recruter. Et surtout, il aime bien analyser toutes les particularités du joueur avant de recruter un joueur. Là, Marcelo Bielsa a même téléphoné à Lassana Diarra pour le convaincre de signer à l'Olympique de Marseille. Ils ont discuté ensemble et Lassana Diarra a été convaincu par le discours de Marcelo Bielsa. Aujourd'hui, quand l'OM recrute Lassana Diarra, il ne recrute pas seulement un grand nom, parce que c'est quand même un milieu qui est connu sur le marché. On l'a dit il y a quelques jours, il y avait plusieurs clubs anglais, il y avait Fenerbahçe. Donc il a encore une cote assez importante sur le marché. On sait que ça a été difficile pour lui ces derniers mois, mais c'est un joueur libre. Et en ce moment, avec les clubs qui ont des problèmes financiers, recruter un joueur libre, c'est toujours très intéressant. Là aussi, on recrute un joueur qui a une certaine, on va dire, particularité sur le terrain. C'est quelqu'un qui a un gros abattage, qui est assez fort techniquement, qui peut récupérer beaucoup de ballons sur le terrain, et aussi qui est quand même quelqu'un dans le vestiaire qui est assez sympa et qui a un bon comportement. Donc l'OM se dit qu'il réalise un bon coup. Pourquoi? Parce qu'il est libre et parce que sur le terrain, il est assez intéressant.
Et puis aussi parce qu'il a de l'expérience, que là, jusqu'à présent, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis de l'OM. Ceux qui sont arrivés sont plutôt des jeunes joueurs. Donc là, Lassana Diarra, il a 30 ans, de l'expérience, des grands clubs. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant pour le club, j'imagine.
Alors, petite anecdote, Virginie, quand j'étais à Sousse, en Tunisie, pour assister à Sousse-OM, ce match amical, la semaine dernière, on était dans le même hôtel que l'Olympique de Marseille. Et quand on voyait arriver les joueurs, c'est limite si on reconnaissait pas ces jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille, et on se disait voilà, ils ont 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, le troisième joueur le plus âgé à 25 ans à l'Olympique de Marseille. C'est assez impressionnant. Donc là, Marseille aussi recrute, on va dire, un leader en puissance. Il a 30 ans, il a beaucoup d'expérience, il a joué la Ligue des Champions, il a joué au Real Madrid, il était entraîné par José Mourinho. José Mourinho appréciait Lassana Diarra, il a joué à Chelsea, il est international français. Donc là aussi, Marseille prend un joueur qui peut être capable de devenir un leader dans le vestiaire de l'OM.
Mais il a jamais joué en Ligue 1, parce qu'il a joué en Ligue 2 avec Le Havre, ensuite il est directement parti à Chelsea. Est-ce que ça peut pas être un handicap, ça, pour Marseille et pour Lassana Diarra?
Handicap, non, parce qu'il a quand même joué dans les plus grands clubs européens. Aujourd'hui, le seul doute qu'il y a sur Lassana Diarra, c'est son état physique. Il a dit, il est passé par plein d'étapes dans sa carrière. Il l'a fait remarquer avec les premiers mots qu'il s'est exprimé il y a quelques minutes sur le site de l'OM. Il a dit aujourd'hui, je me sens prêt pour aujourd'hui attaquer un dernier grand défi dans ma carrière, c'est sans doute l'Olympique de Marseille. Il sait que l'OM lui propose de relever ce défi. Il a joué au Real Madrid, il a joué à Chelsea, il a joué dans les plus grands championnats. Lassana Diarra, on va dire que la Ligue 1, ça va rien changer pour lui. S'il arrive à s'acclimater à l'Olympique de Marseille, à s'adapter au jeu de l'Olympique de Marseille et surtout à relever, on va dire, le niveau avec tous ces jeunes joueurs, ça peut être un très bon pari pour l'OM.
Alors, c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs sur rmcsport.fr. Hein. Est-ce que Lassana Diarra est un bon choix pour l'OM? Et vous êtes très nombreux à dire oui, 76% à dire que c'est un bon choix pour l'Olympique de Marseille. Vous continuez d'ailleurs à voter sur rmcsport.fr. On va voir ce qu'en pense Manu au 32-16, supporter de l'OM. Bonsoir Manu.
Bonsoir à tous.
Alors, que pensez-vous Manu de cette recrue Lassana Diarra à l'OM, ça vous fait plaisir?
Oui, très bonne recrue, très bonne affaire qui vient combler ce qui nous manquait l'année dernière, savoir un joueur intelligent, un joueur d'expérience, un joueur de vestiaire, un joueur qui sait ce qu'est un grand club et un joueur qui va combler notre déficit au milieu de terrain, parce que Marseille l'année dernière a eu un gros déficit au milieu de terrain. Je pense que Diarra est l'homme idéal pour combler ce trou.
Et alors donc le deuxième joueur qui est tout proche de l'OM là, c'est Javier Manquillo. C'est signé, c'est pas signé Mohamed?
C'est signé, il va s'engager en prêt avec option d'achat. Il y a eu un accord de principe, mais on va dire qu'il reste encore quelques tout petits détails, mais il sera à Marseille la saison prochaine.
Donc latéral, il vient de l'Atlético, prêté à Liverpool la saison dernière. Donc là aussi, hein, c'est plutôt des clubs renommé.
Ah là complètement, Javier Manquillo, il est connu et reconnu. Il a signé la saison dernière en prêt à Liverpool. Il a connu une année difficile en revanche du côté de Liverpool. Il a disputé que 5 matchs. Pourquoi? Parce que tout simplement pour un Espagnol aller du côté de Liverpool, c'est pas toujours simple. Il a pas réussi à s'adapter au jeu de Liverpool. Mais il faut savoir qu'il y a une vraie différence avec Javier Manquillo, c'est que la saison dernière, on se souvient tous de cette fameuse conférence de presse de Marcelo Bielsa le 4 décembre où il avait expliqué qu'il avait été trahi par l'Olympique de Marseille, qu'il n'avait pas eu tous ses joueurs qu'il voulait. Javier Manquillo, c'était une priorité de Marcelo Bielsa la saison dernière. Il voulait absolument avoir Javier Manquillo. Là, Vincent Labrune a donné Javier Manquillo à Marcelo Bielsa. Il arrive en tant que concurrent de Brice Adjedi. Il fallait un concurrent à Brice Adjedi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un joueur qui a un gros potentiel reconnu en Espagne, mais qui a connu des déboires du côté de Liverpool.
Alors juste un tout petit mot. L'OL aussi voulait Manquillo, je crois. Dans la petite guéguerre entre l'OM et l'OL, ça fait un point pour Marseille?
Ça fait un petit point pour l'Olympique de Marseille parce que l'Olympique Lyonnais cherchait depuis quelques jours un latéral droit. Il y a une réflexion qui est menée pour un latéral droit et on observait Javier Manquillo. Bordeaux aussi observait Javier Manquillo, mais c'était pas du tout une priorité alors que l'OM le voulait vraiment depuis la saison dernière et que là, Vincent Labrune en quelques heures a bouclé le dossier à l'inverse du dossier Lassana Diarra.
Merci Mohamed. Ce dossier Lassana Diarra à Marseille, on en reparle dans l'after avec Florent Gautreau tout à l'heure à partir de 21h. On remercie Manu d'avoir appelé le 32-16. Et dans quelques instants, on sera en ligne avec Eric Thomas qui représente le foot amateur, président de l'Association française du foot amateur et qui réagit à ce qui se passe en ce moment dans le foot français. Cette espèce de guerre entre les instances dirigeantes. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h45, l'Intégral Tour c'est jusqu'à 21h. Le football français vit un été de crise, fédération et ligue à couteau tiré. Mohamed Boissier est toujours avec moi en studio et en ligne avec nous Eric Thomas, le président de l'Association française de football amateur. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. Hier, le comité exécutif de la fédération a annulé la décision de la Ligue de ramener à deux montées et deux descentes le mouvement entre Ligue 1 et Ligue 2 dès cette saison. Tout ça va donc se régler devant la justice. Quel est votre sentiment quand vous voyez les instances du foot se donner un spectacle comme ça?
C'est aberrant, mais à la fois pas surprenant, parce que on a hérité d'une gouvernance du 19e siècle, donc c'est l'ensemble de la gouvernance du football français qu'il faut réformer. Je rappellerai que la réforme de 2011 est une catastrophe. Il n'y a pas longtemps, hein, c'était juste après Knysna. On a mis un pansement sur une jambe de bois, donc on peut pas tirer le meilleur de ce fonctionnement. Il y a quand même un sujet qui est important sur cette histoire-là. Sur le fond, la Fédé et la Ligue sont d'accord. C'est juste quand est-ce que
oui, c'est-à-dire
Ligue...
que c'est enfin deux montées, deux descentes, ok, mais est-ce qu'on le fait en fin de saison prochaine ou la saison d'après? C'est ça.
Bien
hein
sûr, C'est ça le sujet. Alors, se disputer à ce point et donner une image aussi pitoyable du football français à un an de l'Euro, que voulez-vous que les amateurs en pensent ? Je pense qu'il y a beaucoup d'écœurement, il y a beaucoup de d'hémorragie parmi nos bénévoles qui ne reconnaissent plus leur sport. C'est ça le sujet. Et c'est que notre fédération, elle ne s'intéresse plus à nous. C'est plus la fédération française de tout le football. Elle n'est préoccupée que par deux choses, l'équipe de France, c'est très important, évidemment, et par l'Euro. Ces clubs amateurs, c'est 2 millions de licenciés, c'est 500 000 bénévoles, c'est 15 000 clubs qui luttent tous les jours pour apporter des équipements, des entraînements aux petits. Elles ne s'y intéressent plus du tout. C'est devenu une machine à cash, une machine à business.
C'est-à-dire, quand vous avez parlé tout à l'heure de la réforme de 2011, on va répéter quand même, c'est que les clubs pro ont plus de pouvoir, plus de pourcentage dans leur vote maintenant que les amateurs, hein, c'est ça?
Bien sûr, parce que on a vendu les voix pour 15 millions d'euros garantis. Voilà le sujet. On est passé de 25% de voix à 37% pour, je le rappelle, 44 clubs pro et 1000 joueurs. Alors que les 15 000 clubs amateurs et 2 millions licenciés n'ont aucune voix au moment d'élire le président de la Fédération française de football. C'est là qu'est le véritable scandale. Moi, je peux me présenter, je m'y suis présenté à la fédération, mais je ne peux pas voter. Quelle démocratie digne de ce nom peut s'enorgueillir d'avoir des présidents de Ligue 1, Ligue 2 qui votent directement à l'élection du président de la Fédération française de foot et 15 000 clubs amateurs qui représentent quand même 2 millions de licenciés qui ne peuvent pas s'exprimer. Et c'est là qu'est le véritable scandale.
C'est-à-dire que pour vous, là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire est-ce que vous êtes plus pour la Fédération ou pour la Ligue. En fait, vous remettez tout le monde dos à dos.
Bien sûr. Bien sûr, je renvoie Noël et Thierry à leur guéguerre, parce que le football français mérite le meilleur. Quand je vois qu'à l'occasion de l'Euro, qui est une formidable opportunité pour l'ensemble du foot français, il n'y a pas une seule place qui est prévue pour les amateurs, les bénévoles, les dirigeants du football français. C'est un véritable scandale.
Il y a des places qui sont prévues pour les bénévoles, hein. Il y a un quota de places qui sont prévues pour les bénévoles. Ça a été annoncé par Jacques Lambert, le président de l'organisation de l'Euro 2016.
Vous nous direz combien ? Parce que je sais qu'il y a 20 000 places qui sont réservées pour les jeunes des banlieues. C'est les gens de modestes.
C'est déjà 20 000 places déjà. Et il y a d'autres places. Il y a un pourcentage qui est réservé aux bénévoles du football français.
Vous nous direz quand, comment on peut y accéder et combien de places ? Parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucune place de réservée pour les bénévoles du football français qui œuvrent tous les jours, je le rappelle. C'est le seul service public qui est ouvert 7 jours sur 7 et qui est assuré par des bénévoles. Donc voilà le véritable scandale.
J'ai l'impression, en vous écoutant, en fait, qu'il y a vraiment deux choses qui s'affrontent, deux philosophies presque qui s'affrontent. C'est-à-dire que quand j'entends, par exemple, Bernard Caillazo qui nous parlait hier, le président de la Saint-Etienne, qui nous parle d'entreprises qui doivent être rentables, qui doivent pouvoir se battre face à d'autres entreprises européennes, et quand j'entends votre discours à vous qui est à l'opposé de ça, qui me parlait de vous nous parlez de solidarité, etc., je vois pas bien comment une réconciliation est possible.
Et parce qu'on n'a jamais été conviés, on ne nous a jamais concertés, on ne nous écoute jamais. On fait 90% du boulot, voilà, tous les jours. D'où croyez-vous que viennent nos internationaux ? De nos clubs amateurs. Ils ont tous été formés, sans exception, dans un club amateur depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Voilà la réalité du football français. Mais on n'est jamais concerté. Quand les sujets d'actualité, on passe la parole aux professionnels. Et je vous remercie de m'inviter à porter cette parole du foot d'en bas, qui, pour une fois, va être entendue. Et j'invite les clubs amateurs, les dirigeants du foot amateur, à adhérer à l'AFA. Il y a un site qui s'appelle afa.asso.fr. J'invite tous ceux qui se reconnaissent dans le quotidien du foot amateur à nous rejoindre pour être une véritable force et pour enfin porter une voix forte. Le sujet, c'est pas le foot amateur contre le foot professionnel. Moi, je reconnais la légitimité et la logique. Je suis dans mon club, le club de Montlouis-sur-Loire, est partenaire de l'AS Saint-Etienne. Donc, c'est bien qu'on arrive à travailler ensemble.
Monsieur Thomas, juste pour une question de précision, 3% des billets seront réservés donner aux familles du football et aux bénévoles, juste pour préciser. Et ma question, est-ce que vous acceptez et vous trouvez normal aussi les dires et les propos des clubs de Ligue 1 qui considèrent qu'aujourd'hui il y a un manque d'attractivité de notre Ligue 1 face aux autres championnats européens, un manque de compétitivité aussi, et que ces problèmes viennent aussi en partie à cause du monde amateur, dans la décision du football amateur?
J'accepte la première partie de votre interrogation. Oui, il y a un manque de compétitivité qui a des raisons multiples. À l'évidence, il faut se pencher et apporter des vraies réponses, pas une fausse réponse de montée ou trois montées. C'est pas ça la véritable question fondamentale du football français. Et quant à dire les amateurs en sont responsables, non, les amateurs ne sont pas responsables des problématiques du foot professionnel. Aujourd'hui, c'est Paris Saint-Germain qui cache la forêt de la pénurie et de la pauvreté du football français. C'est ça la réalité.
Merci beaucoup Eric Thomas d'être venu vous exprimer sur RMC. À très bientôt sur notre
Merci
antenne, représentant du foot amateur. Donc, on va terminer cet intégral tour avec un homme qui est en train de réaliser un défi complètement fou. Est-ce que vous connaissez le triathlon ? Natation, vélo, course à pied, jusque-là tout va bien. Le plus dur des triathlons, c'est l'Ironman. 3 km 800 de natation, 180 km à vélo et un marathon pour finir. Eh bien, notre invité, Ludovic Chornion, fait 41 Ironman de suite en 41 jours. Bonsoir, Ludovic Chornion.
Bonsoir.
Est-ce que vous tenez encore debout là? Vous avez commencé le 1er juillet, c'est-à-dire que là vous en êtes à votre 24e Ironman. Dans quel état êtes-vous là physiquement?
Eh bien normalement de mieux en mieux. Voilà, donc le corps s'adapte et tout se règle au fur et à mesure. Je suis rentré dans une forme de petite routine et c'est plutôt efficace. Donc,
C'est-à-dire que vous êtes moins fatigué là maintenant, par exemple, que deux jours après le début de votre pari?
Tout à fait. Alors, en plus, bon, j'ai eu des circonstances particulièrement pénibles puisque j'ai commencé par mon premier Ironman avec 39 degrés et 51 cordes vent. Le deuxième, c'est à peu près pareil. Le troisième, il faisait 42. Un petit peu éprouvant au début, et puis il faut effectivement que le corps accepte cette charge un peu nouvelle, et puis au fil des jours.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous décidiez de faire un truc pareil?
Écoutez, j'ai la chance de vivre en Loir-et-Cher et je sais pas si tous les Loir-et-Chériens ont conscience de cette chance-là, et puis j'ai surtout la chance de beaucoup voyager et de me rendre compte que malheureusement le Loir-et-Cher a une image qui n'est pas à la hauteur de la beauté et de la richesse du territoire. Et je me suis
dit, oui, parce que 41, comme 41 Ironman, c'est comme le département, hein, c'est ça.
Tout à fait. Voilà. Sachant que je cherchais à faire parler de ce Loir-et-Cher et de la richesse des entreprises, des situations culturelles, etc. Ça a été un magnifique. Il fait bon vivre et donc je me suis dit faut tenter quelque chose, et comme il y avait un record du monde de triathlon qui consistait à en faire 10 d'affilée, je me suis dit tant qu'à faire on va essayer de le compléter.
Donc 10, le record du monde vous l'avez déjà hein, puisque c'était donc 10, là vous en êtes à 24, vous pourriez vous arrêter finalement là maintenant?
Certainement pas. Moi c'est 41 ou rien, donc ça n'aurait de valeur que voilà, ça n'aurait pas de valeur par rapport au message que je veux faire passer, et puis à l'engagement, en France aussi. Il se passe quelque chose de complètement fabuleux autour de moi. Voilà, les associations s'unissent, les entreprises se redécouvrent, les gens courent autour de moi. Les soirs, il y a 200, 250 personnes derrière moi, juste par plaisir, dans les rues. Voilà, ça m'envahit les rues.
Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de supporters chaque jour qui vous encouragent.
Oui, alors j'ai des supporters et j'ai surtout des gens qui comprennent que si moi j'ai réussi le défi, ils peuvent réussir les leurs. Et donc, il y en a des dizaines qui ont fait leur premier marathon. Il y en a des dizaines et des dizaines qui n'avaient pas fait de sport depuis 10 ans, qui ont sporté un vélo, qui ont sporté des baskets. Il y a des enfants qui ont 4-5 ans, qui courent quelques kilomètres.
Oui, forcément, tout ça encourage. Eh bien, bon courage, Ludovic Chornion. Il vous en reste 17, si j'ai bien compté. 17, donc 17 Ironman. À très bientôt sur l'antenne d'RMC, peut-être quand vous aurez terminé ce formidable pari. Merci beaucoup. Et c'est Florent Gautreau qui est arrivé.
Notre sorte d'Iron Man, effectivement.
Évidemment.
Salut
la
Virginie.
La salle à l'OM.
On va en parler, effectivement. Ouais, on va même commencer par ça, ouais, tout à fait, Virginie. Le mercato de l'OM qui s'accélère. On s'inquiétait un peu hier, on avait tort. La Sana Diarra, Manquillo peut-être. Supporters marseillais, on vous attend au 32-16. Plus toutes les infos transfert du jour avec un gros plan sur le mercato de Reims. Et puis le point sur le PSG à une semaine du Trophée des Champions. Le quiz, le je m'en fous pas. L'after arrive dans quelques instants. À tout de suite.